pape. François s'est bien reposé pendant la nuit, indique le Vatican. Hier soir, son dernier bulletin de santé relevait que le souverain pontife de 88 ans n'avait pas eu d'épisode d'insuffisance respiratoire ni de bronchospasme, mais qu'il devait passer la nuit avec un masque d'oxygène.
Merci Cécile Mérieux.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
Face à ce renouveau du rêve américain proposé par Donald Trump, l'Europe a quelque peu du mal à se situer, ou du moins à trouver peut-être l'énergie d'un rebond, à trouver les moyens de se repenser dans un contexte qui évolue très vite. La guerre, qu'est-ce que ça veut dire pour un Européen alors que l'Union Européenne s'est construite contre la guerre, pour dépasser la guerre, dépasser les nationalismes? Est-ce que ça nous invite à réfléchir à la manière dont on peut s'y prendre à présent à l'égard de l'Ukraine, de la Russie et des États-Unis, sachant que Donald Trump ne nous fera sans doute aucun cadeau. Guy Barret, Vincent Petitet, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette réalité de la guerre, ce retour de la guerre? Ce n'est pas seulement le retour de la guerre en Europe, on l'a dit quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine en 2022, mais c'est le retour de la guerre pour nous qui devons nous impliquer. Qu'est-ce que ça veut dire?
Tout d'abord, je pense qu'on a eu tendance à peut-être oublier un petit peu l'histoire des 19e siècle et 20e siècle, où l'Europe a été en guerre, pas continuellement, mais c'est presque la règle. Il y a eu deux guerres mondiales au XXe siècle. On a oublié aussi la Bosnie, en fait, dans les années 90, où il y a eu une guerre extrêmement sanglante. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on nous rappelle que la guerre n'est pas une abstraction. Le ton aussi martial qui est employé me fait toujours un petit peu tiquer, parce qu'on a eu la guerre contre le Covid, et puis maintenant, on a la guerre en Ukraine. Donc, ce qui me pose peut-être problème, moi, c'est pas tant la guerre, mais c'est ceux qui veulent la faire. Est-ce que aujourd'hui, on a un personnel politique qui est prêt à vraiment faire la guerre? Parce qu'on a des annonces qui sont presque très abstraites, avec des montants financiers importants. Sur les réseaux sociaux, on voit soutien à l'Ukraine. Mais on a du mal à voir comment cela va vraiment se concrétiser. Est-ce qu'on a un personnel politique qui serait prêt vraiment à s'engager dans une guerre? Après la Seconde Guerre mondiale et toute une 4e République, début de la 5e République, on avait des hommes politiques qui avaient fait la guerre, qui savaient ce que c'était la guerre, qui avaient souffert de la guerre. Aujourd'hui, la guerre, on en parle beaucoup sur les plateaux télé, mais on oublie de dire que la guerre en Ukraine, je crois que le bilan, c'est presque maintenant 1 million de morts. Donc la guerre, c'est d'abord un massacre, une boucherie. Au-delà, finalement, des envolées romantiques des uns et des autres, moi, je suis très dubitatif. Puis l'effort de guerre, qu'est-ce qu'un effort de guerre? L'effort de guerre, ça serait toutes les usines, par exemple, de pièces automobiles, d'automobiles aujourd'hui, devraient faire des tanks. C'est ça, l'économie de guerre, en fait. Mais on n'y est pas du tout. Et puis, finalement, quelle aide on a apporté à l'Ukraine, nous, Européens, depuis le début de la guerre? Pas vraiment.
Là-dessus, il y a vraiment des chiffres assez divergents. Oui. Alors, je n'ai pas creuser la totalité de cette question. Moi, j'ai certaines sources qui me disent les États-Unis ont donné 114 milliards de dollars essentiellement sous forme de prêts. L'Europe a donné 135 milliards d'euros. Donc, semble-t-il, on a plus donné que les États-Unis. Mais il y a d'autres sources qui disent l'inverse. Donald Trump dit 300 milliards et puis nous, beaucoup moins. C'est difficile. On est un petit peu noyé dans les milliards, dans cette question-là. Il faudrait peut-être affiner les choses. Mais en tout cas, l'Europe a donné.
L'Europe a donné, mais il me semble aussi qu'on personnalise beaucoup. C'est vraiment la guerre contre Poutine. C'est beaucoup, beaucoup ça. Alors que c'est pas la guerre contre Poutine. La guerre, c'est un ensemble de combats, de conflits. Et à force de personnaliser, je pense qu'on perd vraiment de vue la réalité de ce qu'est une guerre. C'est-à-dire, c'est l'échec de la civilisation sur le continent européen. C'est quand même ça, la guerre, en fait. C'est pas juste déstabiliser Vladimir Poutine.
Guy Barret.
Oui, la guerre, je pense que pour les Français et pour les plus jeunes, c'est quelque chose qu'on trouve dans les livres d'histoire. Vance a dit que les Anglais et les Français n'ont pas fait la guerre depuis 30 ans. Il fait certainement allusion à la guerre d'Irak, la première guerre d'Irak, où il y a eu des troupes françaises, en effet, qui ont été engagées contre Saddam Hussein et qui avaient envahi le Koweït. Mais cette guerre n'était pas sur notre territoire. Et donc, depuis la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas eu de troupes sur notre sol. Alors,
sauf en Algérie. Hein, l'Algérie était
oui, mais on a appelé ça. Oui, mais sur notre sol, qui était à cette époque-là, l'Algérie était française. Mais bon, il y a eu des attentats en France, etc. Mais Vous demandiez si nos hommes politiques, lesquels sont prêts à faire la guerre. Et puis, il y a aussi, en corollaire, quels sont les Français, et parmi eux les jeunes Français, qui sont prêts, je dis, à mourir pour, non pas pour Danzig, comme on disait, mais mourir pour Kiev. Quand on voit les sondages, lorsqu'il est question d'envoyer des troupes françaises en Ukraine, donc on en parle actuellement dans le cas où il y aurait un cessez-le-feu pour veiller aux frontières, etc., les Français sont contre. Hein. Alors, et même mourir pour l'Ukraine, mais mourir pour la patrie, je ne pense pas que parmi les jeunes, d'abord le patriotisme est plutôt vilipendé, confondu avec le nationalisme, la xénophobie, etc. Bon, sans compter un certain nombre d'autres, notamment qui sont plutôt pour défendre d'autres patries, notamment au Moyen-Orient. Mais, donc... Je ne vois pas qu'on puisse...
Donc ça paraît une abstraction, ça paraît quelque chose d'assez lointain.
Ça paraît irréaliste. Non, c'est vrai qu'on nous avait annoncé « l'Europe, c'est la paix » parmi les slogans au moment du référendum de Maastricht. « C'est la paix, la prospérité, etc. Bon. » Donc les gens ne sont pas préparés psychologiquement à une guerre. Mais nous sommes un peu dans cette guerre, nous sommes dans l'attente, on nous dit attention, etc. Bon, alors, si on nous explique que si on abandonnait l'Ukraine, eh bien, alors les troupes de Poutine défilerait, s'en prendrait à la Moldavie, à la Roumanie, et probablement oserait aller jusqu'en d'autres pays européens, y compris... Bon, je pense que...
La Pologne ou les Pays-Bas.
Voilà, oui, je pense que c'est pas tout à fait exact. Pourquoi ? Parce que c'est ce que disent les politiques. Mais les militaires, les experts, pas ceux qui paradent à la télé, mais les experts sérieux disent que, mettons qu'ils arrivent à conquérir l'Ukraine. Et c'était le dessein premier de Poutine. Hein. En 3 jours, il devait le faire. Et alors qu'il a échoué. Mais s'il avait réussi, il aurait fait une chose est de vaincre un pays, autre chose est d'occuper. Il faut des troupes considérables. Alors, s'il avait l'Ukraine, ensuite la Moldavie, la Roumanie, il ne pourrait pas y arriver. Il n'est pas arrivé avec ses troupes à vaincre, et il n'a conquis que... C'est 20% de trop, mais 20% du territoire. Au point qu'il a dû faire appel à des troupes nord-coréennes. Donc, quand on dit qu'il va se répandre comme ça, il n'en a pas les moyens. Hein. Voilà. Donc,
il ne faut pas exagérer, donc, estimez-vous
voilà,
la menace.
Je veux dire que les politiques, pour mobiliser les populations, etc., éventuellement justifier tout ce qu'on donne pour l'Ukraine, mais la réaction des gens, hein, c'est que... sans leur consentement, on donne des milliards à l'Ukraine, et puis on leur dit, sur le plan intérieur, il va falloir vous serrer la ceinture, parce que c'est l'austérité, etc. Alors les gens ne comprennent pas. Et donc, je suppose que ce soir...
Alors on va en parler, justement, qu'est-ce que peut dire Emmanuel Macron ce soir à 20h, Vincent Petitet, puisqu'il prendra la parole dans une allocution en rapport avec l'Ukraine et la situation internationale.
Alors malheureusement, j'ignore ce qu'il va dire. Ce qu'on peut déplorer aussi, c'est que la guerre devienne une sorte de marketing un petit peu politique. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a l'impression que faire la guerre, c'est se donner bonne conscience. Or, la guerre, c'est jamais quelque chose, un gage de bonne conscience. C'est jamais un gage de fraternité. On a l'impression que non seulement cette guerre est abstraite, mais en plus, elle se fait vraiment dans une transparence qui la rend paradoxalement obscure. Parce qu'on ne comprend pas bien quels sont les objectifs de guerre. Est-ce que c'est d'arrêter Vladimir Poutine? Est-ce que c'est de redonner à l'Ukraine sa souveraineté absolue? Est-ce que c'est d'avoir une position de force qui permet d'engager des discussions avec la Russie? Tout ça est très confus. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur l'accélération. Depuis 15 jours, ça va très vite en fait. Tout le monde s'agite, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup d'agitation. Or, il me semble que la politique, parfois, mérite de se faire dans une sorte de secret, dans une sorte de lenteur où des discussions ne devraient pas apparaître au grand jour. Moi, j'étais très choqué de la séquence avec Zelensky et Trump, de voir ça filmé comme ça, de voir tout ce qui se passe. J'ai été choqué, non pas parce que la séance était un petit peu rude pour le président Zelensky, mais de voir exhiber des choses, à mon avis, qui ne devraient pas l'être. J'imagine que toute négociation de ce type se fait pas dans la douceur. Ce sont des négociations très brutales, puisqu'il y a des vies en jeu, il y a des empires en jeu, des bouleversements qui vont se faire. Donc que l'opinion publique soit choquée par la brutalité du ton me surprend un peu, parce que moi je n'ai aucune illusion sur ce type de tractation. Je sais mieux qu'elle se fasse en secret. Alors le président Macron ce soir, que va-t-il dire? Est-ce qu'il va faire une sorte de marketing un petit peu guerrier? Je ne sais pas du tout. Et ce qui me choque un petit peu, c'est ce bellicisme de Bonaloi.
C'est un moyen d'exister?
C'est peut-être pour lui un moyen d'exister, d'être le futur président de l'Europe. Hein. Peut-être que c'est aussi dans ses ambitions. Mais je pense qu'il devrait aussi dire à tous nos concitoyens que quand on a le président Poutine comme ennemi, on n'a pas toute la Russie comme ennemi. J'entendais sur les ondes avant-hier des gens qui disent « Moi, je ne veux plus lire de littérature russe. Il faut boycotter les auteurs russes. Comment on peut boycotter Dostoïevski quand on se dit européen ? Comment on peut boycotter Nicolas Gogol, qui était un écrivain russe, qui est né en Ukraine, qui est un génie littéraire, qui a beaucoup de leçons à nous donner ?» Donc, la première victime de la guerre, disait-on, c'est la vérité. Et je crois qu'on est vraiment dans une confusion qui fait que cette accélération me semble très délétère. Cette agitation me semble très délétère.
Guy Barrès, sur ce que peut dire le chef de l'État,
oui,
ce soir.
Oui, écoutez, je pense que... il ne va pas dire autre chose de ce qu'il a défendu jusque-là, à savoir qu'il faut soutenir l'Ukraine, qu'il y a un agressé, un agresseur, etc. Et que voilà, bon. Et donc, et il va justifier aussi l'important, à mon avis, l'important effort financier que ça nécessitera de l'Europe. Mais enfin, l'Europe, elle n'a pas une cassette, elle a spéciale. Ces fonds sont pour l'essentiel abondés par les États nationaux, et donc y compris, si vous voulez, par la France. Et je crois que ça ne sera pas vraiment compris, et c'est pour ça que Macron doit s'efforcer dans ce domaine-là, faire de la pédagogie. Et évidemment, pour motiver les gens, nous sommes toujours dans une situation manichéenne. C'est toujours le camp du bien contre le camp du mal. Et le camp du bien, ce serait l'Europe. Hein. L'Amérique en est maintenant exclue de la part de l'Europe, notamment. Et puis le camp du mal, c'est celui de Poutine. Et donc, dans ce combat du bien contre le mal, tous les efforts financiers, humains, sont justifiés. Alors, il ne va pas le dire comme ça. Hein, mais je pense que c'est la trame de ce discours. Et puis, il va s'efforcer probablement aussi de s'opposer en médiateur, si tant est que ce soit encore possible, entre Zelensky et Trump. Mais je crains que l'audience du président français soit de faible du côté américain. Alors il essaye certainement de se refaire une popularité en tant que leader européen ou qui tendrait à l'être devant l'effacement de l'Allemagne qui est en transition, Mélanie qui pouvait effectivement être cet intermédiaire.
Mais tous les Européens sont faibles, voilà, hein, Guy Barrès, aujourd'hui. Voilà. Faibles, oui, 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 face à leur opinion publique.
Oui, oui, oui. Donc, c'est pour ça que quand on nous dit qu'il faudra 800 milliards pour refaire
c'est vertigineux.
Pour désarmement. En plus, on ne peut pas les fournir, donc il faudra en acheter une partie aux Américains. Et surtout, on explique que parmi ces fonds, il faudra prendre les fonds dits d'intervention, c'est-à-dire des fonds qui sont normalement sanctuarisés pour aider des situations européennes en difficulté. Voilà. Et on va prendre une partie de ces fonds pour l'armement. C'est quand même un peu excessif. Alors, Bon, finalement, comme s'il y a une certaine confusion, que les gens ne savent pas qui paie quoi et qui fait quoi, ça peut passer comme ça. Mais au moment où il faudra passer la CBIL, ce sera certainement autre chose.
Ça risque d'être quelque peu douloureux. Est-ce que la rhétorique guerrière, juste parce que vous disiez, Vincent Petitet, on retrouve un peu les accents, guerre du Covid, guerre contre le Covid, tout ça, c'est un moyen un peu de se survivre à soi-même, de tout le temps parler de la guerre, de prendre un petit peu le drapeau entre les mains, de jouer un peu le pont d'Arcole.
Et oui, je pense que c'est une recette un petit peu éculée de mobilisation des foules, mais je sais pas si ça,
si vraiment, ça prend tant que ça.
Si ça prend tant que ça, parce que et à ce titre, on peut peut-être s'interroger aussi sur le rôle d'une diplomatie autre, qui est la diplomatie vaticane, par exemple, dans ce type de conflit, dans cette escalade guerrière. Et c'est vrai que c'est dommageable que notre pape soit souffrant, parce qu'il aurait probablement aussi une voix, je ne sais pas si elle porterait, mais on manque de conscience, de grande conscience, je trouve, internationale et politique, dans ces moments très inquiétants. On manque de figures de réassurance. Il me semble qu'on manque de ressources spirituelles. Dans des temps troubles où on en aurait grandement besoin. Voilà, la seule bonne nouvelle, moi, que je vois, c'est ce rapprochement avec le Royaume-Uni, qui était plutôt de bon aloi, cette nouvelle entente cordiale, dirais-je, qui était la bienvenue. Mais je pense qu'une grande conscience spirituelle aurait son mot à dire dans ces temps extrêmement troublés, et je regrette qu'il n'y en ait pas. Aussi bien du côté du Vatican, on comprend peut-être pourquoi, mais aussi du côté du monde orthodoxe, qui est aussi très lié au pouvoir en Russie.
Et c'est vrai que d'une manière générale, les représentants religieux, on les entend assez peu dans cette période que nous connaissons. N'hésitez pas à nous écrire direct@rcf.fr et direct@radionotredame.com. On va parler à présent, puisque vous parlez de conscience. Elle a joué ce rôle de conscience 80 ans après. Anne Frank a fait l'objet d'une soirée documentaire, c'était hier soir sur France 2, et c'est une manière aussi pour nous de marquer cet anniversaire. Anne Frank, 15 ans, morte du typhus dans le camp de concentration de Bergen-Belsen en mars 45, est évidemment connue du monde entier pour son journal, traduit en 95 langues, lu par des dizaines de millions de personnes. Et c'est important peut-être d'en parler aujourd'hui, parce que ça nous renvoie aussi à la réalité de la guerre telle que les Européens l'ont vécue, hein, Vincent Petitet.
Oui, alors ça nous renvoie, je pense, à plusieurs choses. Ça nous renvoie à l'importance mémorielle. Et là, c'est une mémoire écrite, scripturale, qui passe par le livre. Ça nous renvoie aussi à la position des États sur l'occupation nazie et la responsabilité des États. Parce que je crois que Mark Rutte, qui était le Premier ministre des Pays-Bas, en 2020, finalement, à présenter ses excuses. Alors, je suis pas du tout dans la repentance, mais je pense que la reconnaissance officielle est toujours importante. Et puis, ça nous renvoie bien sûr à l'antisémitisme et au déchaînement d'antisémitisme qu'il y a eu aux Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale, puisque le Gauleiter de l'époque, donc le gouverneur finalement nazi des Pays-Bas, donc Arthur Sessinkart, a promu une politique extrêmement brutale dans les Pays-Bas. Parce qu'en 1941, il y a même eu une famine, il y a eu des révoltes qui ont été réprimées très, très, très brutalement. Et puis paradoxalement, il y a eu aussi une collaboration dans les Pays-Bas, puisque finalement, 75% de la population juive des Pays-Bas a été déportée et exterminée. Et dans ces temps aussi troubles, où il y a des résurgences de l'antisémitisme, je pense que c'est bien de raviver ces mémoires un petit peu enfouies, qu'on a tendance à oublier. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire de la hiérarchie des mémoires, mais de ne pas oublier que 1945, c'est pas si loin, et qu'il y a eu, des individus qui ont finalement dénoncé Anne Frank.
Guy Barret.
Oui, je pense que c'est un document qui est très lu et très commenté, et c'est une heureuse chose, parce que ça permet de donner une actualité quasi permanente à ce qui s'est passé à la Shoah, alors que les témoins disparaissent les uns après les autres, que certains livres d'histoire ils consacrent peu de choses. Et puis les plus jeunes, pour eux, c'est un événement historique parmi d'autres, etc., dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est très bien qu'il y ait ce journal qui a été contesté parce que le père avait modifié un certain nombre de choses. Et donc, alors, les négationnistes ont dit que c'était une invention. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que c'était une adolescente, et dans son journal intime, qui n'était pas destiné à la publication, elle évoquait ses problèmes de puberté, des problèmes intimes, et effectivement, donc, le père l'a expurgé de cela. Bon, et puis après, il y a deux ou trois ans, on a dit, on a trouvé la personne qui a dénoncé toute la famille. Bon, ça a fait long feu, ça n'a pas du tout marché. Mais ce qui est vrai, c'est que 75%, comme vous le disiez, de la population juive a été déportée. Et parmi ces gens, il y a Saint Edithstein, qui venait d'Allemagne, s'était réfugié en Carmel, en Hollande, et qui a été avec sa sœur déportée. Et ce qui est une chose, c'est que 75% de la population juive a été déportée, et en France, ça a été 25%. Alors, il y a différentes interprétations là-dessus. Il y a ceux qui disent, ah ben oui, là-bas, il y avait un Gauleiter, tandis qu'en France, il y avait Pétain qui a protégé les Juifs. D'autres disent pas du tout. C'est parce qu'il y a eu plus en France de solidarité, de justes, qui les ont protégés. Ce qui, à contrario, signifie qu'il y en avait moins en Hollande, ce qui n'était pas flatteur pour les Hollandais. Voilà. Mais c'est bien que... Et puis, il y a aussi d'autres... Ça peut... Un de mes enfants lisait le journal d'Anne Frank, et par là, elle a lu aussi un autre journal qui lui est français, qui est intéressant. C'est le journal d'Hélène Baer, alors elle n'a pas été, mais c'est pas réfugiée dans une chambre, etc. Mais elle a raconté qu'en tant qu'étudiante dans une famille, etc., comment, et puis elle a fini déportée. Et on a retrouvé son journal qui a été donné à son fiancé et qui l'a publié. Et c'est aussi, donc ça permet, si vous voulez, à partir du journal d'Anne Frank, se documenter non seulement sur d'autres journaux, d'autres personnes qui ont vécu cela, mais aussi se documenter historiquement sur ce qui s'est passé.
Oui, parce que c'est aussi un témoignage de la vie quotidienne sous l'occupation. Voilà. Donc on peut comparer aussi les types d'occupation dans un pays comme les Pays-Bas, puis un pays comme la France. Vincent Petitesse, sur ce journal d'Anne Frank, qui est très accessible, oui. C'est aussi la grande force de ce type de témoignage.
C'est intéressant, ce type de témoignage, parce que ce sont des témoignages, je dirais, très incarnés. On sort de l'abstraction monstrueuse des 6 millions de Juifs exterminés pour rentrer vraiment dans la singularité de la persécution. Donc on ressent la persécution, les interrogations. Moi, j'ai visité la maison d'Anne Frank. Effectivement, c'est un univers extrêmement confiné, dans lequel on sent vraiment tout ce qui concerne l'enfermement.
40 mètres carrés, hein,
oui, c'est tout petit. Il y a un petit escalier, la dissimulation, donc la difficulté finalement au quotidien de vivre une persécution. Je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment, à partir du singulier, on peut atteindre un discours beaucoup plus universel. Dans l'autre cas, effectivement, de Hélène Baer, c'est intéressant de voir aussi que ce sont des femmes aussi qui écrivent. Donc, cette réflexivité autour de l'intime qui vient de journaux féminins est aussi une ressource assez précieuse, finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue autour de l'archive quand, effectivement, ce sont des femmes qui écrivent? Est-ce que leur point de vue est différent? Je trouve ça très intéressant, parce que les femmes étant une minorité dans la minorité juive, est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus vertical dans le ressenti? Donc, je trouve que cette incarnation, finalement, de la persécution d'une façon très singulière la rend beaucoup plus perceptible, presque plus appropriable, voire identificatoire. On peut parfois s'identifier à ce que dit Anne Frank, parce qu'effectivement, elle a des soucis de jeune fille, elle a des soucis d'une jeune fille de son temps. Donc, c'est quelque chose qui la rend très proche de nous. Il y a une très, très grande de proximité, je trouve, ce qui est le lot, finalement, de l'intime, du journal intime, et ce qui réhabilite aussi l'écrit, en fait, comme, je dirais, souvenir précieux, témoignage précieux du temps ou de l'histoire.
Guy Barret,
Oui, ce qui me frappe, moi, c'est l'authenticité, parce que à l'origine, ces journaux n'étaient pas destinés à la publication. Donc,
ils en sont d'autant plus vrais.
Ils sont d'autant plus vrais. Ils n'arrangent pas la réalité pour à des fins, j'allais dire, si ce n'est politique, du moins apologétique, etc. Et donc, c'est une grande authenticité. Il y a un film qui est sorti cette semaine, la semaine dernière, qui est l'adaptation d'un livre d'un autre confrère, Guy Birenbaum, et qui raconte l'histoire de sa mère. Hein, qui a été effectivement aussi, qui s'est caché, ils étaient six, cinq ou six, dans une petite chambre pour fuir la persécution en France. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est demeurer chez moi, quelque chose comme ça. Et donc, c'est encore un témoignage. Et je pense que la multiplication de ces témoignages, ça fait un peu boule de neige. Quelqu'un dit, oui, mais on pensait, si vous voulez, dans un premier temps, les déportés qui avaient connu les camps
se sont tus.
Ils se sont tus et ce sont souvent leurs enfants, leurs petits-enfants qui leur ont dit ou qui ont témoigné. Simone Veil explique que c'était à la fois personne ne nous croirait, disait-elle. Et puis il y avait aussi en témoignant, fallait revivre un peu tout ça, c'est que en mots, etc. Et donc ça ne s'est pas fait. Et maintenant, effectivement, c'est plus facile.
Et 80 ans après, les choses peuvent peut-être davantage éclore. Et peut-être que dans votre famille, d'ailleurs, vous avez aussi quelques journaux intimes que vous allez retrouver et dont vous pouvez faire aussi profiter vos enfants ou vos petits-enfants. Merci beaucoup à tous les deux. Guy Barret, ancien journaliste au Figaro, écrivain essayiste, et Vincent Petitet, consultant en stratégie, écrivain également. Merci beaucoup à tous les deux et bonjour Melchior Gormand.
Bonjour Louis Dauphren, bonjour à toutes et à tous. Dans un instant, c'est Je pense donc j'agis avec Madeleine Vatel. C'est aujourd'hui le mercredi des cendres. Ça marque l'entrée en carême pour les chrétiens. Vous savez, cette période de 40 jours, rappelant la traversée de Jésus au désert. Mais le désert, qu'est-ce que c'est vraiment? On va prendre le temps de marcher avec nos invités dans un instant et vous appelle au 04 72 38 20 23. À tout de suite.